La vue d'une année que dans les Français, nos petits soldats loin de tout le monde sont là-bas. Le temps sur la bataille, ils bravent la mitraille. Ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur ces sales Prussiens. Les Français sont gourmands.
Bienvenue sur Radio Capucin, vous êtes sur 94.5 FM en compagnie de
Joab,
Rabat,
Delsa
et Monsieur Dobard. Alors, donc aujourd'hui, nous évoquons notre sortie à Verdun. Alors, bien sûr, c'est vous qui allez avoir la parole pour nous exprimer un petit peu ce que vous avez ressenti. Il n'est pas interdit d'évoquer, bien sûr, la préparation que nous avons effectuée pour cette sortie, en évoquant, bien sûr, le film « À l'Ouest, rien de nouveau » d'après le livre d'Erich Maria Remarque. Mais aussi, on peut faire un parallèle, bien sûr, avec notre sortie précédente au musée de Meaux et sur les champs de bataille alentour. Alors, Dolsa, tu es la seule demoiselle qui est de ce groupe. On va te donner tout de suite la parole. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans nos sorties entre Verdun et Meaux?
Pour moi, c'est plus Verdun parce que à l'Osphère de Douaumont, je trouve qu'ils ont bien respecté les personnes parce que, par exemple, devant l'Osphère de Douaumont, ils ont enterré les personnes qui ont participé à cette guerre. Et ils leur ont attribué leur religion. Je trouve que c'est très respectable. Et pour les corps qui n'ont pas été identifiés, ils ont fait, ils ont construit l'ossuaire de Douaumont spécialement pour eux. Et je trouve que c'est très respectable. Ensuite, il y avait à Verdun. Je trouve que, par exemple, dans la ville de Verdun, il y avait des monuments ou des statues. Par exemple, le général Gallieni, ils l'ont bien représenté, vu qu'il a mis en place le taxi de la Marne et ça fait référence à ce qui s'est passé vers Meaux pendant la guerre.
Oui, au début de la guerre, hein, oui. Lorsqu'il a fallu stopper l'offensive allemande, tout à fait.
Et aussi, par exemple, quand on a visité la ville de Fleury, on voit vraiment le lien qu'il y avait eu parce qu'il reste beaucoup de traces d'obus. Et on voit vraiment la différence par rapport aux photos qu'on a pu voir. Donc on a constaté que c'était vraiment un désastre. Il ne reste plus rien, sauf une église. Et on peut voir que c'est vraiment triste.
Alors, une église qui a été reconstruite après la guerre. Hein. La chapelle a été reconstruite après la guerre, puisque le village de Douaumont... Douaumont aussi, puisque c'est un village martyr également. Mais le village de Fleury a été complètement rasé sous les bombardements. Tout à fait.
Ah, oui.
Et toi, Rabat?
Moi, ce qui m'a beaucoup... un petit peu pas choqué, mais c'est que même 100 ans après la bataille de Verdun, il y a toujours les stigmates, oui, sur la terre. On voit qu'il y a des bosses partout, on voit que c'est la marque des obus. Aussi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, la sortie a été très intéressante, surtout quand on est allé dans le fort de. Non, dans la citadelle de Verdun.
Oui.
On a fait la visite souterraine, c'était très bien, c'est très intéressant. On était dans des petites voiturettes. On faisait le tour des souterrains où il y avait les soldats et on s'arrêtait avec des petits films qui nous expliquaient comment elle était la vie pendant la bataille de Verdun. Et ensuite, à la fin, on a vu comment a été choisi le soldat inconnu qui est sous l'Arc de Triomphe à Paris.
Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans la citadelle?
Les conditions de vie,
oui.
Aussi, ils voyaient peu le jour, ils étaient pratiquement presque, ils étaient complètement sous la terre, ils vivaient qu'avec des lampes, mm-hmm. Il faisait très sombre, il faisait très froid.
Donc un destin pas très enviable.
Oui, c'était voilà. Très dur, ça devait être très dur, et c'est aussi pour nous rappeler les horreurs de la guerre, pour que ça ne recommence plus.
D'accord. Et toi, Johan?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est le village de Fleury.
Oui.
Et lors de la champ de bataille, il y avait des sortes de dunes, mm-hmm. des traces d'obus. Enfin, c'était choquant. On est sur le terrain, on se dit qu'il ne faut pas que la guerre se répète parce que sinon, ça serait un massacre.
Oui, tout à fait.
Et aussi, les conditions de vie des soldats. Ce qu'ils mangeaient, ils n'avaient pratiquement qu'une baguette de pain.
Oui, alors un morceau de pain, à l'époque la baguette, c'était pas comme aujourd'hui, mais effectivement un morceau de pain.
C'était très peu, ils ne pouvaient c'était horrible de vivre dans ce genre de conditions. Voilà. Et voilà, il y avait des rats dans les tranchées. Ils vivaient très mal.
Alors, c'est bien que tu évoques les tranchées, puisque nous sommes aussi allés voir la tranchée des baïonnettes. Hein. Alors, est-ce que ça... Oui.
Je sais pas si ça s'est passé ici, à la tranchée des baïonnettes, mais si je m'en souviens bien, le guide nous avait raconté qu'il y avait une amitié franco-allemande.
Alors, non, c'est pas à la tranchée des baïonnettes, mais tu as raison de parler de... Alors, on ne peut pas vraiment parler d'une amitié franco-allemande, mais on peut parler d'une fraternisation. Il y a eu quelques rares cas de fraternisation, notamment au moment de Noël, et le premier Noël de la guerre, où les Allemands fêtaient Noël dans leur tranchée, et de l'autre côté, les Français et les Anglais étaient dans une autre tranchée et ils ont décidé d'un commun accord de faire une trêve, la trêve de Noël, bien sûr, sont sortis prudemment au départ de leur tranchée pour essayer de discuter tant bien que mal, malgré les barrières de la langue, avec l'ennemi, puisque c'était l'ennemi. Ils en sont même arrivés à échanger quelques présents. Et puis le lendemain, eh bien, ils sont retournés dans leur tranchée respective pour se tirer à nouveau dessus. Il faut savoir que, bien sûr, les états-majors n'ont pas du tout apprécié ce genre de fraternisation. Et il n'était plus question que ce genre de fraternisation se reproduise. Bien. Alors, effectivement, la tranchée des baïonnettes, c'est un summum aussi dans l'horreur par la légende qui a été faite. Parce que je vous ai expliqué sur place qu'il y a deux versions dans l'histoire de la tranchée des baïonnettes, c'est-à-dire celle que l'on aime raconter avec la légende selon laquelle les soldats ont été ensevelis par des tirs d'obus debout avec leur fusil prêt à monter à l'assaut. Et puis la vraie histoire qui a été découverte lorsque l'on a les Américains qui ont fait un don pour cette tranchée des baïonnettes, pour la couvrir. Vous avez vu qu'elle est recouverte d'un bloc de béton afin qu'elle soit protégée et qu'elle devienne un mémorial. Eh bien, ils ont bien sûr creusé pour voir un petit peu ce qu'il y avait en dessous, et il semblerait, d'après les archives et les études qui ont été faites, que cette tranchée des baïonnettes était tout simplement une tranchée dans laquelle des corps déjà sans vie, des corps déjà décédés, avaient été entreposés en attendant de pouvoir être enterrés, et que l'on avait certainement posé des fusils debout à côté pour indiquer qu'ici, il y avait des soldats morts. Voilà. Alors, bien sûr, dans l'histoire, on garde toujours ce qu'on appelle des images d'Épinal, c'est-à-dire, il y a l'histoire telle qu'elle est et puis telle qu'on la raconte. Alors, la tranchée des baïonnettes en fait un peu partie, tout comme certains de vos camarades évoquaient les taxis de la Marne. Alors, bien sûr, les taxis de la Marne ont joué un rôle important pour stopper les troupes allemandes, mais il n'y a pas eu que les taxis. Il y a eu d'autres moyens de transport qui ont acheminé les soldats français vers le front, vers Meaux. Mais l'image de ce taxi de la Marne, c'est quelque chose de fantastique, de formidable pour marquer les esprits, sachant que les taxis de la Marne à l'époque avançaient sur les routes qui n'étaient pas aussi bien goudronnées que celles que nous connaissons maintenant, à environ 30 km/h, et tombaient régulièrement en panne. Donc ce n'était pas les performances que nous connaissons actuellement. Alors, et toi, Dolsa, la tranchée des baïonnettes, ça t'a parlé ou ça t'a laissé un peu plus froide, je dirais, que de voir les tombes de Douaumont?
Je trouve que ça m'a laissé un peu plus froide parce que les tombes de Douaumont, je trouve, ils ont beaucoup plus, pas décoré, mais c'est plus respectable, je trouve. Enfin, après, les tranchées des baïonnettes, ils ont fait une sorte de temple pour l'entrée. Ouais. Donc, je trouve que c'est aussi respectable d'un côté. Mmh.
D'accord. Et toi, Johan?
Moi, c'est l'ossuaire des Douaumont.
Oui. L'ossuaire. D'accord. Pas uniquement les tombes, mais l'ossuaire.
L'ossuaire est aussi à l'intérieur.
D'accord. Quand pourquoi à l'intérieur?
C'est impressionnant de voir tous les noms, tous les gens qui sont tombés à la guerre. C'est impressionnant. Et en fait, on ne se rend pas compte, parce que quand on est en cours, on parle de la guerre. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes pour qu'on vive libre aujourd'hui. Ah,
tout à fait. Bah, écoute, c'est excellent comme mot de conclusion. Merci.
Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civils. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crane, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crane, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Bonjour et bienvenue sur Radio Capucin 94.5 FM. Aujourd'hui, nous allons faire une émission sur notre sortie à Verdun, donc dans le cadre de l'échange franco-allemand.
Et donc, vous êtes en compagnie de...
Guillaume.
Barani.
Moi-même, Ryan.
Et Monsieur Daubard.
Moi, personnellement, lorsque nous sommes partis à Verdun, lorsque nous avons visité tous ces terrains dévastés par cette guerre, ce qui m'a vraiment impressionné, tout d'abord, c'était les territoires, le terrain autour de Verdun, ces villages qui, avant cette guerre, étaient paisibles, où la population vivait une vie tranquille et qui, après et pendant cette guerre, vivait une vie horrible, une vie que nous ne vivons pas.
Et, par chance.
Oui, exactement. Et c'est grâce à ces soldats qui sont tombés au combat que nous pouvons vivre de nos jours cette vie, enfin une meilleure vie. Et donc... les villages qui sont détruits autour de Verdun sont vraiment pas extraordinaires, mais impressionnants. Parce que, par exemple, de petites fermes qui, auparavant, ou des fermiers qui cultivaient leurs champs, sont maintenant des terrains de désolation, un grand désert où personne ne peut vivre. Et heureusement qu'après ces guerres, nous avons pu... planter des arbres pour un peu cacher cette guerre, mais dans la vérité, nous ne pouvons pas cacher cette horreur, cette guerre.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait qu'effectivement, une bonne partie des territoires ne sont plus cultivés de nos jours, sont laissés comme ça, non pas à l'abandon, puisque vous l'avez vu, pour le village de Fleury, il y a des arbres qui ont repoussé, mais on entretient bien. Mais il y a des lieux encore où l'on ne va pas trop retourner la terre, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des obus encore qui risquent à tout moment d'exploser. Les paysans alentour déposent quelquefois, lorsqu'on se promène dans les champs autour de Verdun, on trouve des obus qui ont été posés en attendant d'être déminés. Et puis, il y a en bon nombre d'endroits encore, très certainement, des corps qui sont sous la terre, qui n'ont pas été trouvés, des morceaux, le cas échéant, de corps. Donc, ça abonde bien tout ce que tu viens d'exprimer. Oui.
Il y a aussi, lorsque nous avons visité Verdun, il y avait aussi une tranchée qui est un peu sortie du lot, la tranchée des baïonnettes. On l'appelle comme ça parce que, après la guerre, cette tranchée, comment expliquer ? On pouvait y apercevoir des baïonnettes de fusils de soldats.
Alors, les baïonnettes, très vite, on ne les a plus vues, mais je me souviens que, bon, je suis beaucoup plus âgé que vous, mais lorsque j'étais enfant, on voyait encore des morceaux de fusils tout rouillés qui sortaient. Aujourd'hui, on ne les voit plus, mais donc, c'est ça. L'idée, c'est qu'il ne restait plus, après les bombardements, que les fusils qui dépassaient.
Exactement. Et donc, lorsque généralement on peut avoir des hypothèses sur ces fusils. Et par exemple, il y a eu plusieurs légendes dessus sur la tranchée, comme par exemple que de pauvres soldats qui faisaient la guerre, qui tiraient sur leurs ennemis, ont été surpris par des bombardements et qui sont morts enterrés vivants. Mais si des soldats sont morts d'une telle façon, c'est vraiment horrible, car c'est vraiment impossible à imaginer.
C'est clair, c'est clair. Et toi, Barani, alors, qu'as-tu ressenti et qu'est-ce qui t'a le plus marqué, je dirais ?
Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Déjà, c'était les villages détruits, donc celui de Fleury. Quand on pouvait voir, par exemple, on voyait les traces d'obus, puis après, à côté, il y avait une inscription, il y avait écrit « ferme ». Et puis après, on pouvait voir juste le terrain qui était détruit. Après, il y avait aussi les lettres de Madame de Vatic qu'elle avait lues. Par exemple, il y en avait une où c'était un soldat qui a été capturé par des Allemands. Puis il a réussi à fuir, mais il a été accusé de désertion par les Français. Du coup, il s'est fait exécuter. Puis il y a beaucoup de choses, par exemple, la tranchée des baïonnettes. L'histoire, je trouve ça un peu... voilà, spécial qu'on a fait deux histoires pour dire par exemple la vérité et puis une légende qu'on a fait par-dessus. Mmh. Après, il y avait aussi par exemple le fait que la guerre, elle a été perdue à la fin. Vous aviez dit, je sais plus si c'était pour la seconde ou la première, mais c'était la guerre a été perdue par l'arrière parce que l'arrière, par exemple, elle souffrait de famine.
Ah oui, alors ça, c'est ce qui a été dit en Allemagne après la capitulation, donc le 9 novembre 1918, Guillaume II, l'empereur, est obligé d'abdiquer puisqu'il y a une révolution à l'intérieur de l'Allemagne. Le 11 novembre, c'est l'armistice et les militaires allemands sont d'avis que ce sont les politiciens qui ont perdu la guerre parce qu'ils n'ont pas voulu poursuivre la guerre. Et que si on avait laissé les militaires allemands poursuivre la guerre, ils auraient fini par vaincre. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé die Dolchstoßlegende, la légende du coup de poignard dans le dos, qui malheureusement va être reprise par la suite par Adolf Hitler dans ses idées. Mais donc voilà, ça c'était ce qui était proposé, ce qui était avancé par une partie de l'armée allemande à la fin de la Première Guerre mondiale pour justifier la perte sur le terrain. Non, ce ne sont pas les soldats qui ont perdu, ce sont les politiciens qui n'ont pas voulu poursuivre la guerre.
D'accord. Ensuite, il y avait aussi autre chose, par exemple, pour lier avec notre sortie à Meaux, on avait vu des affiches de propagande donc, qui parlaient encore du coup de la famine, où on pouvait voir par exemple des affiches américaines, je crois, où il y avait écrit par exemple pour sauver une vie, vous devez finir de manger, par exemple. il faut rien gaspiller, par exemple. Ouais. Et on voyait quelqu'un qui tenait un pain à la main. Mmh. Et puis ça, je trouvais ça que c'était un peu touchant parce que ça voulait dire que à l'arrière et à l'avant, on subit quand même la guerre.
Tout à fait, tout à fait. La guerre était partout. Et puis, la nourriture a toujours été un point très important. Et c'est ce qui a permis aussi, à l'époque, simplement au général Pétain, il deviendra maréchal plus tard, au général Pétain, de redonner un petit peu de cœur à l'ouvrage, si je puis dire, aux soldats dans les tranchées qui en avaient vraiment assez, en améliorant leur ration quotidienne et en rapportant davantage de vin, puisque... le soldat français était habitué à consommer du vin à tous les repas. Et toi, Guillaume ?
Moi, tout d'abord, c'était la citadelle avec le chariot interactif. Donc déjà, je trouve que c'est pratique parce que il montrait tout. Plus on avançait, plus on voyait comment c'était fait dans les tranchées, le pain et tout. Et aussi, il y avait une marche à pied. Donc, je trouvais ça...
Le parcours, tu veux dire le parcours à la fin, d'accord. Oui, oui. Lorsqu'on arrive à la fin de l'évocation et qu'on se dirige vers la paix, donc ça, on poursuit à pied.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette citadelle, alors ?
Ah, moi, c'est quand les boulangers faisaient le pain. Donc, comme ils étaient sous terre, donc c'était peut-être pas facile, le pain devait rester de la terre dedans ou...
Oui, alors effectivement, d'abord, on n'était pas toujours livré dans les conditions nécessaires. Et puis, alors dans la citadelle, si on reprend ce que l'on a vu, ceux qui étaient dans la citadelle avaient, j'allais dire, moins à se plaindre que ceux qui étaient sur le champ de bataille, puisque sur le champ de bataille, il y avait lors des attaques, on ne disait pas « bon, ben, on arrête tout pour livrer le pain ». Si une attaque était en cours, ben, on ne pouvait pas manger, bien sûr, on devait combattre. Et quelquefois, il arrivait que ceux qui étaient chargés d'apporter la soupe, comme on disait, eh bien, ne puissent pas arriver à temps, puisque ils avaient été tués ou bien les combats faisaient rage, etc. Et donc, il faut prendre en compte que nos soldats ne pouvaient pas toujours manger à leur faim, au bon moment, etc. Les conditions de vie dans les tranchées, c'était vraiment l'horreur. Hein. Alors, je ne sais plus quel groupe, un groupe parmi vos camarades évoquait les rats. Il faut savoir aussi que dans les tranchées, eh bien, il y avait les rats. Il y a eu même des primes qui étaient données aux soldats. Plus on rapportait de queues de rats qu'on avait tués, ben, on recevait quelques sous à l'époque pour compenser. Voilà. Mais écoutez, moi, j'ai été ravi d'évoquer avec vous, avec tous les différents groupes, ce séjour à Verdun. C'était, à mon avis, très important, puisque ça vous a rendu cette histoire un peu plus palpable. Alors, à moi aussi de vous remercier pour cet investissement.
Donc nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci à Monsieur Debar d'être venu et de nous avoir aidés dans ces émissions. Donc vous étiez en compagnie donc de moi, de Barani, de Guillaume et de Monsieur Debar. Donc à très bientôt sur Radio 4+1 94.5.
Mais c'est fini car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre vie.